Azamine Radio Courtoisie, bonsoir. Au micro, on avait Alain Laurence dans le cadre de ce libre journal des traditions, assisté par Stéphane, que je remercie pour sa collaboration, toujours efficace et aimable. Et Guylaine aussi, qui est toujours à nos côtés, aussi émue et souriante et efficace. J'ai la joie de ce soir de recevoir l'abbé Loïc Duverger, qui préside le destiné du pèlerinage de Pentecôte. Bonsoir, monsieur l'abbé.
Bonsoir, monsieur l'abbé. Bonsoir, chers auditeurs.
Et puis, je recevrai vers 20h Augustin Tonnard, qui, lui, nous parlera de la session Saint-Thomas-d'Aquin, qui a lieu chaque année au mois de juillet. Il nous dira quel est le programme de cette session qui étudie Saint-Thomas. À 20h30, alors, nous aurons en liaison par Zoom l'abbé François Delmotte, qui vient de faire paraître un ouvrage très bien écrit, Sainte Marie-Madeleine, femme de l'Évangile, aux éditions Clovis. Et je lui demanderai de nous détailler un petit peu la table des matières pour vous donner envie, chers amis, de lire ce très bel ouvrage. Je l'appelle donc, ça fait combien d'années que vous faites le pèlerinage?
Je fais le pèlerinage, ça doit être aux alentours de 99-2000. Je l'avais fait encore un petit peu plus, quelques années plus avant, quand j'étais dans les prieurés. Mais voilà, 99-2000, avec une interruption de 6 ans quand je suis parti faire un petit tour en Afrique. Et puis, j'ai repris en 2016 la direction du pèlerinage, comme de nombreux...
Alors, on dit que c'est la Pentecôte. On va tout de suite préciser d'ailleurs aux auditeurs que cette année, la Pentecôte, c'est les 23, 24 et 25 mai. On commence donc à la vigile de la Pentecôte. Puis, le jour même de la Pentecôte, nous avons... la grâce d'une messe pontificale et le 25 à Vauban.
Comme d'habitude.
C'est voilà, donc on retrouve
le parcours habituel, pas de changement.
En revanche, ce qui n'est pas habituel, ça change même chaque année, c'est le thème. Donc là, vous pouvez peut-être un petit peu nous dire qu'est-ce que signifie ce thème, envoyer des ouvriers à votre moisson. Évidemment, c'est une prière, c'est une requête, c'est même à l'initiative de Jésus-Christ que l'on doit faire cette prière. De quoi s'agit-il?
Eh bien, c'est de prier encore une fois pour les vocations sacerdotales et religieuses. Nous touchons tous du doigt quotidiennement l'absence du prêtre dans la cité, l'absence du prêtre dans les paroisses qui se sont vidées, il n'y a plus de religieux, il n'y a plus de religieuses dans les couvents qui se vendent à foison. Et une réalité pour nous qui sommes catholiques, c'est que sans le prêtre, il n'y a pas la vie surnaturelle, il n'y a pas la grâce. Sans le prêtre, il n'y a pas de possibilité de se sanctifier. Et il nous faut des prêtres toujours plus nombreux, parce que malgré la baisse du catholicisme, nous nous rencontrons, et dans beaucoup de paroisses, grâce à Dieu, beaucoup de nouveaux chrétiens. Les fêtes de Pâques ont montré le nombre incroyable de baptisés, une vingtaine de milliers de baptisés. Et donc ce sont des personnes qui prennent du temps, auxquelles il faut attacher beaucoup d'attention, pour leur permettre de progresser, de se sanctifier, d'apprendre la doctrine chrétienne. Et donc, nos prêtres sont submergés dans les prieurés par ces catéchismes. Et donc, il faut qu'ils soient secondés, fortifiés par des jeunes générations qui montent et qui viennent s'engager dans la vie sacerdotale et religieuse.
Pour aider les auditeurs de Radio Courtoisie à situer un petit peu l'importance numérique, je ne parle pas de l'importance spirituelle, numérique de la fraternité en France, c'est après combien de prieurés, combien de prêtres?
Alors, c'est
combien d'écoles?
Un peu plus de 150 chapelles,
oui.
Une cinquantaine de maisons, 180-190 prêtres, et puis 9 lycées avec une bonne dizaine de petits primaires qui représentent environ 2000-2500 garçons que nous éduquons. Et à cela, il faut rajouter, et ne pas l'oublier, l'aumônerie que nous assurons dans toutes les écoles des dominicaines qui, elles, éduquent quasiment le même nombre de filles. On était sur des mêmes proportions. Et donc, c'est vrai que c'est là aussi beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup d'attention. Et ça nous oblige à être très présents. Les forces s'usent chez certains, parce qu'il y a quelques-uns qui prennent de l'âge, et donc il faut véritablement qu'on arrive à susciter de nouvelles vocations. Et ces vocations, c'est un appel de Dieu, donc qui a une action particulière de Dieu dans l'âme, que chacun entend, que chacun doit écouter, et il est nécessaire que... fait, dans l'évangile, notre Seigneur Jésus-Christ ne nous demande que de prier. Prier pour que vous ayez des ouvriers à la moisson. La moisson est abondante, les ouvriers peu nombreux, et donc prier. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ nous demande de prier. C'est ce que nous allons faire pendant 3 jours. Nous y ajouterons, parce que c'est toujours bon d'y ajouter un petit peu de pénitence. Et donc tous les pèlerins, avec beaucoup de générosité, vont faire ces 3 jours de pénitence, de prière et de pénitence, pour supplier le bon Dieu d'envoyer les vocations.
Je reviens à ce nombre de prêtres qui se dévouent dans la cinquantaine de prieurés et toutes ces écoles. Est-ce que la Pépénio, donc, qui est le supérieur du district, est empêchée de développer le district comme il le voudrait, comme il le souhaiterait, c'est-à-dire comme le demandent les âmes, faute de prêtres? Est-ce que vraiment, s'il y avait plus de prêtres, on pourrait avoir un rayonnement
plus
important?
Ah oui, c'est certain. Oui, oui. D'abord, on pourrait renforcer les prieurés, où quelquefois vous avez un prêtre pour 500 à 600 fidèles quand même. Hein. Donc, quand il faut s'en occuper, confesser toutes ces personnes, les communier, enfin, c'est un énorme travail, ça prend beaucoup de temps. Et beaucoup de fidèles hein, se plaignent un peu que les heures de confession ne sont pas suffisamment nombreuses. Bon, mais c'est vrai que nous aurions, par chapelle, 2 prêtres, un qui puisse dire la messe et puis l'autre qui puisse confesser pendant les messes, eh bien ça aiderait beaucoup à la sanctification de tous les fidèles et au développement de nos chapelles. Et c'est vrai que nous serions plus nombreux, eh bien nous aurions plus de capacité pour ouvrir des chapelles ici en France, mais aussi à l'étranger, hein, pour tous ceux qui ont été à l'étranger. En France, on a relativement de chance dans la mesure où à moins d'une heure, on trouve une chapelle, une messe, c'est dans la demi-heure, les 3/4 d'heure. Et alors que dans des pays étrangers, hein, les États-Unis, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Océanie, tout ça, il faut les prêtres n'ont quelquefois ne peuvent dire la messe que quelques fois par mois ou quelques fois par trimestre ou par an selon les distances et les lieux, quoi.
Alors je vais risquer une comparaison, mais que vous allez tout de suite comprendre. On parle en France de déserts médicaux, c'est-à-dire des endroits où il n'y a pas assez de médecins. Or, il se trouve qu'un prêtre, c'est le médecin des âmes.
Bien sûr.
Les médecins soignent les corps, mais les médecins des âmes, ce sont les prêtres. Est-ce qu'il y a des déserts sacerdotaux dans le district de France? Est-ce qu'il y a des endroits où vous aimeriez pouvoir faire quelque chose et faute de prêtres, on ne peut pas? Est-ce qu'il y a des endroits où est-ce que c'est parfaitement couvert?
Non, ce n'est pas parfaitement couvert. Il y a des endroits où on est obligé de ne dire la messe que le soir. Parce qu'on n'est pas suffisamment nombreux pour pouvoir célébrer la messe le dimanche matin. Il y a des régions où il y a des petits groupes, pas très importants, mais beaucoup de chapelles ont commencé avec des petits groupes qui se sont développés par la suite. Ça demande beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de travail. Et cela, on ne le fait pas et on ne le fait plus parce qu'on n'a pas suffisamment de prêtres pour pouvoir assurer cet apostolat.
Alors, à ces fidèles, justement, qui sont dans des petits groupes, je pense que le pèlerinage est une grande consolation parce que là, au lieu de se retrouver comme le dimanche soir à 18h, quand le prêtre arrive et ils sont peut-être tout de suite une dizaine, là, ils se retrouvent au milieu de 5, 6, 7 000, de 8 000 pèlerins. Et ça, je pense que c'est quand même très réconfortant. Ils doivent vous le dire, d'ailleurs.
Oui, oui, c'est un grand encouragement pour beaucoup de gens qui vivent refermés un peu sur eux-mêmes dans leur milieu, quelquefois un peu hostile, quelquefois indifférent, et qui dont la bouffée d'oxygène est la messe du dimanche, mais comme vous dites, dans des circonstances qui sont quelquefois un petit peu pauvres, un petit peu avoir là la possibilité de rencontrer d'autres pèlerins qui ont quelquefois les mêmes difficultés, d'en rencontrer d'autres et de participer à toutes ces grandes manifestations, ça donne beaucoup de courage, beaucoup d'enthousiasme. Mais en général, les fidèles qui repartent toujours la joie au cœur, l'enthousiasme, le désir de faire plus jusqu'à l'année suivante.
Et alors, les 5, 6, 7 000 pèlerins qui se retrouvent place Vauban au terme du pèlerinage ne sont pas que des Français, parce que vous avez un pèlerinage international.
Ah oui.
Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu d'où viennent les pèlerins?
De tous les pays limitrophes de la France, donc de la Belgique, de la Suisse, de l'Allemagne, un petit peu d'Italie, un petit peu d'Espagne. Quelquefois, on a eu des chapitres des États-Unis, mais cette année, ça ne va pas se faire à cause du 1er juillet. Mais oui, c'est ça. Alors, quelquefois, il y a des étudiants, souvent, ou des personnes qui sont là et qui viennent de pays très éloignés. On a eu quelquefois le drapeau japonais, l'année dernière, ou il y a 2 ans, il y a eu une famille du, du Zimbabwe ou d'Afrique du Sud qui est venue, qui a voulu faire le pèlerinage en même temps qu'elle visitait les sanctuaires mariaux de la France. Donc oui, non, le pèlerinage touche tout le monde. Tout le monde ne peut pas y venir, mais beaucoup s'y intéressent et se donnent du mal pour pouvoir essayer d'y participer au moins une fois de temps en temps, quoi.
On commence toujours la veille de la Pentecôte, c'est-à-dire le samedi vigile de la Pentecôte, sur le parvis de la cathédrale de Chartres. La messe du départ est célébrée là. Et vous attendez autant de monde que d'habitude, vous sentez que la ferveur est toujours là.
La ferveur est toujours là. Et les pèlerins sont toujours là. Toutes ces dernières années, on a eu une très belle augmentation. Et donc, nous espérons que cette année, ce sera comme les années précédentes. C'est la place le parvis de la cathédrale de Chartres est trop petit maintenant. On a besoin de s'étendre un petit peu, surtout qu'ils l'ont réaménagé d'une façon agréable, mais ça prend de la place. Et non, on se retrouve très nombreux. Les pèlerins ont souvent voyagé une partie de la nuit en bus, se sont arrêtés pour reprendre quelques forces sur une aire d'autoroute, et puis ils arrivent là le matin pour avoir la messe à un petit peu avant 7 heures, et puis partir dans la foulée. Donc c'est quand même pour tous, moi je félicite beaucoup les pèlerins qui viennent d'un peu loin, qui viennent de Marseille la veille en train, qui prennent le car les Alsaciens, les gens de la région de Lyon ou de Saint-Étienne, dès que là, vous avez quand même déjà 6-7 heures de bus, donc ça vous oblige à partir dans des bus qui, malgré tout le confort dont ils sont équipés, c'est quand même pas aussi bien que son lit, et qui arrivent le samedi matin avec une nuit plus ou moins réveillée, enfin sans sommeil, et qui assistent à la messe et passent ensuite toute la journée à marcher, parce que ce sont des 3 jours avec de belles étapes, hein, qui dépassent la trentaine de kilomètres, qui approchent de la quarantaine de kilomètres, donc c'est quand même une vraie épreuve physique. Et la même chose, le soir, en quittant vos bancs, eh bien, tous ces pèlerins reprennent le train, leur car, arrivent dans la nuit, et pour beaucoup, reprennent le travail dès le mardi de Pentecôte, quoi, hein, donc... Je ne sais pas si la journée est très productive à ce moment-là, mais ça n'a pas d'importance, le bon Dieu qu'on pense.
Alors, vous parliez donc de Chartres, Vauban. Entre, il y aura la messe pontificale à mi-distance.
Oui.
Est-ce qu'on sait déjà qui sont les célébrants au départ?
Alors, ce sera M. l'abbé Schreiber, qui est le directeur du séminaire en Allemagne. Le dimanche, ce sera Mgr Felet, bien connu de tous nos auditeurs, qui sera là et qui célébrera la messe. Et puis le lundi, c'est une tradition maintenant, c'est le supérieur du district qui donne l'envoi en mission, si on peut dire.
Voilà.
L'intention générale, et qui développe l'intention générale du pèlerinage.
Alors, tout ce que vous dites donne envie de s'inscrire. Je vais peut-être demander à Guylaine de nous donner les références. Où est-ce qu'on peut aller sur Internet pour s'inscrire?
On peut s'inscrire sur le site du pèlerinage, pèlerinage au pluriel, de tradition.com, tout attaché. Il y a là l'onglet pour s'inscrire. Et les tarifs sont différents suivant qu'on vienne de Paris, de la région parisienne, ou de province, ou de l'étranger, et suivant le nombre de personnes qu'il faut inscrire. Il y a aussi la possibilité de rejoindre le deuxième jour, c'est-à-dire le dimanche, ou même le lundi. Donc tout cela est indiqué sur le site. Par ailleurs, il y a également la possibilité de prendre sur le site la commande pour le livret du pèlerinage, qui permet de préparer évidemment le pèlerinage. Le prix est de 10 euros, donc la somme est modique et le prix n'a pas changé, de même que les prix pour s'inscrire au pèlerinage n'ont pas changé.
Et là, justement, ce dossier, M. l'abbé, par les religieuses dominicaines de Saint-Pré, c'est une mine, on peut dire.
Ce dossier doctrinal est très bien préparé par les dominicaines, qui le préparent depuis des années. C'est un travail d'été, hein, qu'elles font ensemble, à collationner tous ces textes qui sont très très variés. Hein. On parle de Gustave Corsao jusqu'à le Père Lechrome ou Don Chotard. Voilà, toutes sortes d'auteurs spirituels. Et ce sont des petits textes, donc c'est facile à lire. Il n'y a pas besoin de... Ça ne donne pas mal au cerveau, c'est facile à lire, facile à méditer, et c'est des textes qu'on peut piocher comme ça, on n'est pas obligé de prendre la première page et de finir la dernière, on peut prendre un texte et puis s'y arrêter, méditer tranquillement, prendre le suivant ou sauter quelques pages et aller à la suite. Et je pense que d'année en année, avoir cette collection de dossiers doctrinales, eh bien c'est une mine pour se former spirituellement, pour s'encourager spirituellement, pour méditer, pour aider à la prière. Et je conseille toujours les pèlerins de l'acheter. Et, bon, ils ont dû l'acheter maintenant, tous ceux qui sont inscrits ont dû l'acheter, parce que c'est à partir de ce dossier doctrinal que sont bâties les méditations qui vont être lues pendant toute la marche pour pouvoir animer la prière du rosaire qui est récitée pendant toute la marche. Donc, avoir pu se plonger déjà dans ce livret avant le pèlerinage, eh bien, aide à faire une vraie préparation et ne pas arriver au pèlerinage en découvrant le thème sans savoir très bien où on va.
D'ailleurs, quand vous dites méditer et réciter le rosaire, on peut même dire que c'est une particularité de ce pèlerinage, on ne récite pas, on chante
oui,
les
Ave Maria, bien sûr,
ça donne le cœur à l'ouvrage, oui. On avance comme ça. Mais alors, est-ce qu'on médite en marchant ou est-ce qu'on marche en méditant?
On peut faire les deux, je pense, c'est tout à fait permis de faire les deux. Il y a des moments, je pense, où on marche et on médite, et puis d'autres moments où on médite et on essaie de marcher. Donc, ce n'est pas toujours...
Malgré les ampoules, on
malgré
arrive.
Les ampoules, vous voyez, ce sont toujours des lumières particulières qui arrivent et qui peuvent éclairer les pèlerins. Les méditations ont été préparées, bien entendu, auparavant. Elles ont été dactylographiées, voilà. Et après, on espère que le haut-parleur va pouvoir raisonner suffisamment, que les piles, la réserve de piles sera suffisante, permettre d'être entendu par que le chef de chapitre qui lit ses méditations puisse être entendu par tous les pèlerins.
Parce que de fait, ils se déplacent en petits groupes, ce n'est pas une manifestation,
non.
C'est vraiment en petits groupes, qu'on appelle les chapitres.
Voilà.
Ça représente combien de personnes à peu près?
En général, 40 à 50.
Voilà.
Mais il y a quelques fois, des années, moi j'ai rencontré, je me souviens du chapitre Saint-Étienne, hein, ils étaient une dizaine, hein, parce que cette année-là, je ne sais pas ce qui s'était passé, il n'y avait pas grand monde, mais il y avait des durs de durs, si on peut dire, qui avaient choisi de faire le pèlerinage, donc ils étaient là avec leur bannière représentant le prieuré, et ils étaient une dizaine, et ils sont partis à 10, et ils sont arrivés à 10. Malheureusement, ça ne s'est pas multiplié en cours.
Et alors, que font les prêtres, eux, pendant ce temps-là, si c'est le chef de chapitre qui dirige les méditations, eux sont libres et
alors, les prêtres, ils arrivent au pèlerinage, en général, attachés à une région, parce qu'ils viennent avec leurs fidèles, et donc ils commencent par s'occuper de leurs fidèles, et ils peuvent faire des méditations, ils peuvent voilà. Mais surtout leur grand travail, c'est de recevoir les fidèles pour de la confession, pour des conseils, pour des avis à donner. Alors ils se mettent un petit peu en arrière du chapitre, le chapitre avance, chante, récite, chante son « Je vous salue Marie », ses cantiques, et puis le prêtre est derrière et reçoit tous les gens du chapitre. Et puis, quand il a fini, eh bien, il passe à un chapitre suivant, et il se déroule comme ça un petit peu, de façon à ce que tous les chapitres et tous les fidèles puissent avoir accès à un prêtre à un moment ou à un autre. Il y a quelques prêtres qui, lorsqu'ils sont fatigués, eh bien, vont sur le bivouac pour pouvoir servir d'aumônerie à tous les services de logistique, les monteurs de tentes, les cuisines, les services de sécurité, tout cela. Et donc, là, ils leur font des conférences, ils leur font des méditations et puis ils sont à disposition aussi des confessions. Non, de la part des confrères, c'est un bel exercice d'apostolat et il faut beaucoup de courage et beaucoup de force parce qu'il faut à la fois marcher quand on suit le chapitre et c'est pas toujours, on marche à un bon rythme et en même temps écouter le pénitent parce que si on veut que la confession...
Et là, on confesse en courant.
Il y a quelquefois, on confesse en courant ou alors on confesse courbé en deux, parce que c'est un petit de trois pommes ou de trois pommes, pas plus haut que trois pommes, qu'il faut confesser. À ce moment-là, vous marchez à l'horizontale. Donc là, c'est tout un exercice. Hein. Il y a vraiment des particularités, des efforts particuliers. Et c'est toujours encourageant. Les confrères sont toujours encouragés parce que ben c'est un très bel apostolat pendant quelques jours. Quoi.
Alors, on a parlé des fidèles, on a parlé des prêtres, il y a aussi des religieuses, mais alors, ce sont des religieuses un peu spécialisées. Les religieuses en blanc et les religieuses de la fraternité toujours en noir, qu'est-ce qu'elles font, elles?
Alors, les religieuses en blanc, ce sont les sœurs de l'Agneau, les petites sœurs du Raflet, comme on les appelle, qui viennent donc de la région Nantes ou de Lourdes, et qui se mettent au service des pèlerins blessés. Donc, elles font des pansements, elles jouent le rôle d'infirmières, elles sont infirmières, et puis elles aident à soulager les peines physiques. Et puis elle participe au pèlerinage avec une grande générosité aussi, parce que c'est un apostolat qui n'est pas toujours très, très facile, mais elles sont là, toujours joyeuses, toujours accueillantes, tous ceux qui viennent. Alors elles le sont au cours du pèlerinage, il y a des haltes qui durent une quinzaine ou une vingtaine de minutes, il y a la halte du midi, du déjeuner. Eh bien les sœurs, les religieuses sont toujours là pour prendre tous les pèlerins qui n'ont pas pu marcher.
Et avec humilité, elles sont au pied des pèlerins.
Voilà, elles sont au pied des pèlerins, et elles les soignent, elles les pouponnent.
Et il faut dire aussi qu'alors, il y a bien sûr, très sérieusement, une équipe de médecins qui peuvent intervenir, aussi bien pour le chapitre enfant que pour les adultes, et aussi des représentants de la Croix-Rouge, avec leur ambulance. Et il faut avouer que c'est miraculeux, mais il n'y a jamais eu d'affaires graves.
Enfin, non, il y a eu quelquefois des évacuations, par précaution.
C'est
plus par précaution qu'autre chose.
Oui,
mais ce sont des... Non, grâce à Dieu, il n'y a jamais eu d'accident grave. Je crois que tout le corps des médecins et des infirmiers y est très attentif. La Croix-Rouge est là d'une aide précieuse et voilà, on fait attention aussi à ce que les pèlerins partent en bon état de santé. C'est pas la peine d'arriver déjà malade ou déjà blessé, parce que le pèlerinage fera souffrir davantage et risque de finir ensuite sur des accidents qui sont toujours, même s'ils n'ont jamais été graves, c'est toujours un peu inquiétant et c'est toujours un peu difficile à gérer. C'est une grande foule comme ça qui se...
Et même lorsqu'il y avait eu cette tornade, il s'était abattu dès le premier jour,
personne ne s'est noyé, personne n'a eu de rhume, personne n'est tombé malade. Il y a eu quelques refroidissements pour quelques-uns, voilà, à la santé plus fragile. Mais ça a été presque miraculeux, quoi, cette tornade qui nous est tombée dessus. Les gens, on se souvient, les gens marchaient dans 40 cm d'eau, mouillés, trempés jusqu'aux os. Et de fait, il n'y en a pas eu d'accident grave. Les gens se sont...
Vous parlez des gens qui sont effectivement, car ça dure en bonne santé, mais il y a des gens âgés et des gens qui sont infirmes. Il y a des infirmes qui peuvent faire pèlerinage dans des circonstances particulières, même dans leur fauteuil
roulant. Alors ça, c'est le chapitre Sainte-Ludivine, qui est un chapitre d'handicapés. Donc on a des petits trisomiques, on a des gens qui sont plus fragiles, intellectuels, mais aussi physiquement. Et il y en a quelques-uns qui font ça... dans leur chaise, poussés par les uns, entraînés par les autres, et c'est vraiment méritoire. C'est un chapitre qui est soutenu, beaucoup aidé par la Fondation Sainte-Jeanne de Valois, qui s'occupe justement, qui ouvre des maisons pour ces personnes handicapées. Et c'est un chapitre qui est là depuis de nombreuses années, qui chaque année se renouvelle avec... il faut leur tirer leur dire toute notre félicitation. C'est toutes les personnes qui se donnent au soutien, à soutenir ces personnes handicapées qui ont souvent besoin d'une aide, qui sont souvent fragiles physiquement.
Il faut deux personnes par...
Oui, je pense, deux plus, toute l'organisation logistique. Ne serait-ce que, toutes les commodités, toutes les facilités dont ils ont besoin et que... parce qu'à cause de leur handicap. Donc c'est un chapitre que le pèlerinage tient à cœur de garder, de développer, de voir chaque année, parce que je pense que ce sont des personnes qui ont une puissance particulière dans leur prière, dans leur vie surnaturelle, dans leur capacité à toucher le bon Dieu.
Alors on a vu les gens valides, on a vu les infirmes qui sont dans le chapitre Sainte-Ludivine, mais il y a peut-être aussi des gens qui ne peuvent pas, tout simplement, parce que leur grand âge leur interdit de faire, tout simplement parce qu'ils sont à l'hôpital, ce qui était mon cas d'ailleurs l'an dernier, à Paris, où j'étais à la Salpêtrière. Alors je me suis inscrit dans un chapitre dont vous allez nous dire un petit peu plus.
Voilà, c'est le chapitre des membres priants. Alors c'est des gens qui ne peuvent pas venir au pèlerinage, pour X raisons. Hein, il n'y a pas nécessairement besoin d'être soit une personne âgée, soit une personne handicapée, soit... Non, ça peut être une mère de famille qui reste avec ses plus petits, qui peut très bien rentrer dans le chapitre qui s'inscrit aux membres priants. Voilà, une personne seule qui n'a pas pu se déplacer. Enfin, voilà, c'est l'occasion de faire agir à plein la communion des saints, hein, ce grand dogme si consolant de la religion catholique, et de prier les uns pour les autres. Alors, ces personnes qui ne peuvent pas venir, eh bien, offrent ce sacrifice, qui peut être un véritable sacrifice, et en échange, elles associent une prière. Et pour arriver à les faire prier en même temps que le pèlerinage, eh bien, il y a tout un module de méditation, de texte aussi qui leur est fourni pour pouvoir suivre pas à pas finalement le pèlerinage pendant ces 3 jours. Et là aussi, je pense que il faut pas hésiter à s'y inscrire. Encore une fois, c'est pas fait simplement pour les personnes qui physiquement ne peuvent pas y aller. Il y a toutes les personnes qui en sont empêchées, hein, ne serait-ce qu'une personne qui n'a pas les moyens de se payer et le car et le déplacement et tout ça. Donc elle peut tout à fait rester chez elle, prier, réciter le rosaire, chanter les cantiques toute seule ou s'associer. Et pour les aider, cette année, on va avoir un petit plus, on va essayer de retransmettre la messe de Pentecôte en vidéo, hein, donc en live, je ne sais pas comment ça se dit, enfin directement, en direct, voilà.
Vous nous devez 1 euro, merci pour la radio.
Et donc, et je pense que ça va permettre à chaque... Voilà, c'est un peu l'apothéose de dimanche de Chartres, de Pentecôte, dans le Trou Moreau, hein, sur un bel estrade. Monseigneur Felet sera là, et puis pourra ainsi, les fidèles, les membres priants, pourront entendre, voir Monseigneur et cette cérémonie, cette belle messe pontificale.
Les auditeurs de Radio Courtoisie, ils sont sensibles parce qu'eux-mêmes ont la possibilité d'entendre la messe à Saint-Nicolas, la messe de 10h30, alors là, de façon radiodiffusée, et puis sur la chaîne YouTube de Saint-Nicolas, on peut voir la messe. Et là, au fond, il y a une chaîne d'ailleurs du pèlerinage sur YouTube où on peut avoir
pèlerinage de tradition et on tombe tout de suite sur les vidéos de YouTube. Et donc, il y aura là l'écran nécessaire pour pouvoir voir la messe en direct.
Alors, Guylaine, je vais vous redemander, avant que nous ne nous quittions, quelles sont les coordonnées, où est-ce qu'il faut s'adresser pour faire partie des membres priants du pèlerinage?
Alors, pour cela, on peut s'inscrire sur Internet, sur le site du pèlerinage, www.pèlerinage-de-tradition.com. Et il y a donc l'onglet pour s'inscrire pour les membres priants. L'inscription n'oblige que un engagement quotidien pendant les 3 jours, en union avec les pèlerins de Chartres, à la prière quotidienne du pèlerinage, au chapelet quotidien, aux lectures et aux méditations qui sont facultatives mais conseillées et indiquées dans le livret du pèlerin qui leur est adressé.
Il y a un livret pour les membres
priants. Et bien sûr, les autres dévotions sont encouragées, comme aller à la messe s'ils le peuvent, en plus du dimanche. Mmh. Et puis, adoration, ou peut-être. Et puis, les sacrifices, pour s'unir au sacrifice des pèlerins. Donc, il suffit de s'inscrire et de joindre le montant que l'on veut pour recevoir le carnet du pèlerin, le livret des priants et le dossier spirituel, s'il le souhaite en plus.
Alors, je vais vous redemander l'adresse du site, si vous voulez bien.
www.pèlerinage-de-tradition.com.
Et c'est à cette même adresse, d'ailleurs, qu'on s'inscrit pour le pèlerinage lui-même.
Voilà.
Un grand merci.
Il faut le préciser qu'on peut encore s'inscrire au pèlerinage jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière minute. On prendra tous les pèlerins qui viendront.
Il y a des pèlerins de la 11e heure.
Ah oui, il y a des pèlerins de la 11e heure.
Et on en voit qui arrivent à Chartres. Oui. La marguerite entre les lèvres.
Ah oui, ils sont heureux, ils arrivent, ils débarquent.
Ils pensent que tout se passe bien comme ça, et alors qu'on ne les a pas prévus. Enfin, c'est bien.
Non, mais on a de la place pour tout le monde, encore une fois. Il ne faut pas hésiter à venir.
Voilà.
Et puis, voilà.
Et il y en a, il faut dire aussi, on peut, si on n'est pas libre le samedi, on peut venir le dimanche. Il y a tout à fait la possibilité de venir, par exemple, pour cette messe pontificale, au Troumoreau. On peut aussi, à Vauban, et ça, j'invite beaucoup les auditeurs de Radio Courtoisie parisiens à le faire, parce que c'est magnifique. Ça n'est plus simplement un pèlerinage, c'est une vraie procession, c'est un témoignage de foi. Oui. On passe au Trocadéro, on passe au pied de la Tour Eiffel. Les Japonais débrident leurs yeux tellement ils les écarquillent et ils sont émerveillés par cette foule, ces bannières. Donc il faut voir ça. Et certains d'ailleurs des badauds deviennent pèlerins. Ils se joignent.
Oui, oui, si on peut pas marcher, il faut venir sans hésiter. Place Vauban est quand même une très très belle place. Et avec cette messe, avec tout le service sacristie, liturgie, qui a préparé cette immense estrade avec
ça. Tout ça au pied de la coupole rutilante d'or de Saint-Louis des Invalides. C'est magnifique, très très beau. Voilà. Eh bien, un grand merci, monsieur l'abbé.
Voilà, monsieur l'abbé.
À bientôt.
À bientôt, merci.
Chers amis.
Merci, chers auditeurs.
Un message de la radio, si vous voulez bien, chers amis.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Chers amis, donc vous venez d'entendre l'importance de cet appel. Si vous voulez que cette radio, où on ne parle pas des casseurs, mais plutôt des pèlerins, de ceux qui ne viennent pas bousiller tous les abribus après un match de foot, mais qui veulent au contraire prier et construire et édifier, eh bien, soutenez Radio Courtoisie, on compte sur votre générosité. Et j'ai la joie de recevoir, comme je vous le disais, Augustin Tonnard, qui vient nous parler de la session Saint-Thomas d'Aquin qui a lieu les 11, 12 et 13 juillet. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur l'abbé.
Alors, vous êtes un récidiviste. Il me semble que déjà l'an dernier, vous étiez dans cette session.
C'est exact.
Et donc, ça veut dire que vous êtes victime de votre succès. La session existe chaque année, depuis combien d'années?
Chaque année, maintenant, ça fait bientôt 10 ans que les sessions Saint-Thomas ont lieu à l'école Châteauroux, Saint-Michel, près de Châteauroux. Toujours autour du 14 juillet, voilà, sur 3 jours, la session se déroule avec une certaine continuité, puisque nous y viendrons au plan de cette année, de la session. Mais chaque année, nous avançons dans la lecture suivie de la Somme contre les gentils de saint Thomas. Donc il y a une certaine continuité malgré la diversité des sujets renouvelés.
Et alors, évidemment, je vais vous faire une première question tout à fait ingénue. Vous parlez de la Somme contre les gentils, alors... Il est méchant, saint Thomas, s'il est contre les gentils. Expliquez-nous de quoi il s'agit.
Alors, la Somme contre les gentils, c'est un traité qui permet de répondre aux païens avec des arguments en particulier qui relèvent de la raison sur le plan naturel. Et donc, c'est un des premiers éléments fondamentaux de cette session, c'est de travailler les sujets de manière dépassionnée ou tout du moins sans sentimentalisme exacerbé. Prendre des sujets qui peuvent être polémiques, l'évolution, le mal, la guerre. Et donc, ouvrir cette session avec la Somme contre les gentils, c'est s'inscrire dans une dynamique où on va se poser des questions sur le plan rationnel, sur le plan de la raison naturelle, mais on va même aller jusqu'à approfondir ces réflexions à l'aune de la révélation. Voilà.
Donc les gentils, c'est dans le sens de Saint Paul qui est l'apôtre des gentils. Ça n'est pas le qualificatif qu'on emploie habituellement, les gentils contre les méchants.
Tout à fait.
Non, c'est effectivement les païens qui ne sont pas convertis, qui sont dans les ténèbres extérieures. Et là, pour le coup, c'est peut-être assez fréquent aujourd'hui. Il y a beaucoup de gentils.
Et tout à fait. Je pense que dans l'approche, c'est tout à fait d'actualité. C'est-à-dire que la grâce ne supplée pas à la nature, et en ce sens, il y a besoin de repartir déjà de ces vertus naturelles, de toute cette intelligence, de cette volonté qui sont soit sacrifiées, soit amputées, soit niées, obscurcies. Et donc, je pense que on mesure la victoire d'une entreprise à l'aune d'un but, d'une méthode, d'un plan, selon le maréchal Foch. Et donc, ce premier but de rééclaircir les intelligences pour désirer le vrai et le posséder, pour désirer le bien et le posséder, c'est déjà un un grand acte.
J'aime bien cette façon que vous avez de récupérer Foch en faisant un thomiste, un réaliste. Et vous avez raison, je crois que c'était un réaliste. Alors, conception donc militante, non, à défaut d'être militaire, pugnace, offensive.
Militante pour le vrai et pour le bien, c'est
voilà,
vrai.
Voilà, exactement.
On peut le dire.
Ouais. Alors, je voulais vous demander, est-ce que dans le public, parce que des gens très différents nous écoutent, le public Radio Courtoisie est très divers, et des gens qui seraient justement très éloignés, qui se sortiraient plutôt du côté justement des gens qui n'ont pas la foi, etc., peuvent venir. Est-ce que vous en avez eu? Est-ce qu'il y a des gens qui ont pu être intéressés? Ou alors il faut vraiment être baptisé, confirmé, vacciné? Peut-être pas. Est-ce qu'il faut être encarté? Dites-nous un peu, qui est votre public?
Je vous rassure, nous ne demandons pas les livrets de famille catholique à l'entrée. Et c'est un plaisir d'accueillir justement des personnes qui se posent des questions, qui ont envie de réfléchir, qui ont envie de discuter. Et c'est tout à fait le cadre. Précisément, on voit certaines personnes qui se posent des questions, alors pas uniquement au sujet de la religion, mais pour certains c'est le cas, se dire... J'ai l'impression que certains sujets ne sont pas traités, ou pas sous le bon angle, et j'ai envie de revenir au principe. J'ai envie de me dire pourquoi, quelle est la cause, quelle est la fin. C'est vraiment, je pense, l'un des premiers exercices qui est fait, c'est de se dire, voilà, je suis peut-être en quête de sens, comme c'est le terme usité aujourd'hui, mais ce sens n'est que second. C'est-à-dire qu'il arrive, il découle de ce qui est vrai. Et il y a des gens qui recherchent la vérité, et ça s'adresse tout particulièrement à eux, et donc on en voit plusieurs chaque année, et même dans les intervenants, des intervenants qui se posent des questions, qui ont des approches différentes et qui viennent nourrir cette discussion.
Et vous avez un âge requis, évidemment, j'imagine que c'est peut-être pas pour des enfants de 7 ans, encore que saint Thomas à 5 ans se demandait qu'est-ce que Dieu, mais c'était un peu particulier quand même. Quelle est la moyenne d'âge ou quel mini... Il faut des gens, par exemple, qui ont fait leur philo déjà, en terminale ou pas, et vous allez jusqu'à quel âge? Est-ce que moi, à 72 ans, j'ai encore le droit de venir ou c'est fini?
Là non plus, il n'y a pas de limite de ce point de vue-là. Il est préférable, effectivement, d'être au moins au lycée, je pense, simplement pour pouvoir profiter pleinement de la session. Et de ces ateliers, etc., des discussions qui sont en marge de cet événement, mais la moyenne ne serait pas très représentative, parce que l'écart type est fort, et donc je dirais qu'on a deux pôles de personnes, plutôt des cinquantenaires ou des retraités, et puis d'autre part, des jeunes professionnels qui ont entre 20 et 35 ans, pour faire très large.
Voilà. Ouais. En tout cas, donc tout le monde... est accueilli, il n'y a pas d'exclusive.
À bras ouverts,
donc c'est parfait. Alors justement, penchons-nous sur le programme de cette année. Donc, ce qu'on comprend, parce que vous nous l'avez expliqué, c'est que vous poursuivez cette lecture, c'est-à-dire au fond ce commentaire sous forme de feuilleton. C'est un épisode chaque année. Donc c'est toujours la somme contre les gentils de saint Thomas. Il n'y a pas que la somme théologique de saint Thomas, il y a aussi cette somme qui s'adressait donc à ceux qui n'avaient pas la foi. Mais quels sont les autres thèmes alors spécifiques à cette année? Qu'est-ce que vous allez traiter?
Oui, alors l'an passé, nous avions traité bien sûr du jubilé de saint Thomas. Nous avions également traité de la psychologie et de la technique. Et nous en avions parlé effectivement à ce micro. Et cette année... Alors, il n'y a plus le jubilé. Nous sommes très heureux de continuer à faire du thomisme malgré le fait que nous ne sommes plus en année jubilaire. Mais nous traiterons trois sujets que sont l'évolution, scandale du mal et la guerre. Trois sujets, donc, comme je disais, qui peuvent être assez clivants aujourd'hui. Et tout l'enjeu est justement de les traiter avec suffisamment de finesse, avec des distinctions et avec pédagogie, praticité également. Et nous y reviendrons. Pour essayer d'aborder ces sujets qui sont tout à fait contemporains, à l'aune des principes thomistes.
Voilà. Alors, par exemple, le dernier sujet, avec ce qui se passe à l'international aujourd'hui, là, je vois que vous avez comme thème « La guerre peut-elle être juste ?»« Acte de force ou de violence ?» La force étant une vertu, la violence étant plutôt le contraire d'une vertu. vous avez des gens très haut placés dans la hiérarchie officielle qui vous disent « mais il n'y a pas de guerre juste ». Donc, vous allez devoir répondre à cela. Et cette objection ne vient pas d'un pacifiste qui revient de Katmandou après avoir fumé des substances illicites. Non, vous avez des prélats mitrés qui vous disent ça au Vatican actuellement.
Tout à fait. Tout l'enjeu est de savoir si c'est un mal en soi, in se, ou alors est-ce que c'est un mal percé. Et donc, dans ce cas-là, il pourrait y avoir des cas. Et c'est tout l'enjeu du thomisme, justement, et toute cette tranquillité qu'il apporte, de l'ordre où on se dit, sous un certain angle, sous un certain rapport, il se peut que, la chose n'étant pas forcément mauvaise en soi, elle puisse être juste. Et c'est tout l'enjeu, de cette thématique, de traiter justement avec finesse les cas dans lesquels il se pourrait, et il se peut, de fait.
Alors, je vois déjà l'autre question, c'est pas mal. Un droit international peut-il exister? Alors, on va vous dire, alors vous êtes pour l'ONU, vous êtes pour la mondialisation, vous êtes vraiment au cœur de l'actualité.
C'est un sujet vraiment passionnant de savoir non seulement s'il y a un bien commun national. Bon, la question, on y répond assez facilement. Mais le fait de se dire, y a-t-il un bien commun international? Si oui, de quelle manière s'organiser pour essayer de le réaliser, c'est tout l'enjeu, je crois, du droit international, et en tout cas de la possibilité d'instances et d'institutions internationales qui pourraient réellement participer au bien commun. Voilà.
On ne peut pas dire que vous éludiez les questions actuelles, ça c'est très bien. Alors, parce que l'autre, au-dessus, moi je prends à rebours un peu votre thème, votre programme. Le scandale du mal, là, pour le coup, j'ai envie de dire, c'est depuis que le monde est le monde, depuis Genèse, chapitre 3, tout va mal. C'est le péché originel, le mal, tout ce qu'on voudra. Et là, c'est vrai quand même que c'est assez... Vous avez pris comme thème le scandale du mal. Quelqu'un comme Camus n'hésite pas à dire que ça le scandalise et qu'il ne peut pas croire en l'existence d'un Dieu qui permet le mal.
Et tout à fait, c'est vraiment...
Alors si Camus était à votre session, qu'est-ce que vous lui répondriez? C'est ça, voilà la question.
Eh bien, je lui dirais d'assister du mal à Dieu à cette session sur la preuve de l'existence par le mal, justement, parce que l'existence du mal, et disons, le fait de le côtoyer est une expérience assez, je n'irais pas jusqu'à dire banale, puisqu'il y a un scandale véritable, mais disons que tout le monde peut faire. Et de cette expérience-là, qu'en faisons-nous? Et c'est tout le problème de Camus, c'est qu'il reste dans une incertitude, dans une indétermination, dans une sorte de nuée informe, où il n'arrive pas à exprimer autrement que par la colère ce scandale du mal. Et précisément, tout l'enjeu, et je ne veux pas divulgâcher plus avant la conférence qui sera donnée, mais tout l'enjeu est de montrer que ce ne sont que des traces de l'existence de Dieu.
Alors, j'ai envie de vous poser une question personnelle maintenant. Je vous entends avec passion. Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous êtes un philosophe professionnel? Vous travaillez que la philosophie? Vous êtes prof de philo? Vous êtes professeur? Ou vous avez une vie professionnelle et vous vous intéressez à la philosophie? Quel est votre statut?
Oui, tout à fait. Je travaille alors dans une association professionnelle qualifiée de think tank. Voire même de doux tank, comme il est de coutume d'appeler ça aujourd'hui. Bon, et tout le but est de faire le lien entre des principes, une réalité, plutôt une réalité des principes, et d'essayer de proposer des éléments qui permettront de décliner très concrètement, par des actions communes, d'écosystèmes, l'amélioration, on va dire, d'un certain secteur d'activité. J'en dirais pas forcément plus.
Mais alors, si je comprends bien, vous travaillez donc dans un réservoir d'idées, de pensées que vous allez suggérer aux personnes qui vous consultent, et vous venez puiser vos pensées dans les principes thomistes. Vous êtes là, au fond, c'est la source de votre réservoir. C'est cela. Au fond, vous n'êtes pas... vraiment en vacances, vous êtes là aussi pour travailler et ça a une utilité dans votre profession.
C'est tout à fait ça, c'est vraiment, ça me nourrit dans mon travail. Et pourquoi? Pas simplement parce que l'on a fait de saint Thomas une idole, comme on ferait d'un autre philosophe une idole, On l'a c'est bien vu au XXe siècle, quand, la manière dont les philosophes ont été portés au nu, et un tel était heideggerien, un tel était marxiste, un tel était... Comme si effectivement on était encarté, tout à l'heure vous le disiez. L'idée est plutôt de se dire, on se met à l'école d'un maître, pas simplement parce que c'est saint Thomas, mais parce qu'il a des principes, disons, qui sont d'une fraîcheur incroyable. Enfin, quand je dis pas parce que c'est saint Thomas, c'est plutôt, disons, c'est parce que c'est saint Thomas, c'est parce qu'il a été, c'est parce qu'il est devenu le saint Thomas que nous connaissons, le docteur de l'Église, que nous l'étudions, parce que sa pensée était d'une force incroyable. Et c'est un trésor sur lequel nous sommes tombés, grâce à lui, grâce à Dieu. Et tout l'enjeu est justement de conserver cette fraîcheur des principes.
Permettez-moi une question candide. Donc, vous avez, vous, une activité professionnelle rémunérée, donc avec une obligation de résultat, au XXIe siècle, et vous puisez dans un auteur du XIIIe siècle. J'ai envie de vous dire, et ça marche ?
Alors, il faudra demander à mon patron, mais il me semble qu'il y a un caractère tout à fait actuel, justement, à la pensée de saint Thomas, parce que dès lors que l'on se place, et c'est vrai que c'est un petit peu un leitmotiv de cette intervention ce soir, au niveau des principes, dès lors on peut décliner à tout un tas de sujets. Et c'est ça qui est très agréable, c'est de dire, dans chaque chose, dès lors qu'on opère les bonnes distinctions, qu'on voit, qu'on nomme les choses correctement, on essaye de les hiérarchiser, qu'est-ce qui est la cause, qu'est-ce qui est l'effet, dès lors qu'on les réattribue à une fin, avec une cause, dès lors, il y a des choses qui se passent, qui sont assez impressionnantes, et l'action est beaucoup plus facile. Ça ne demande pas d'opérer X retours sur des décisions qui auraient été infructueuses, incomprises. Voilà. Et donc, c'est la clarté des principes qui permet de donner de l'ordre dans l'action et d'aller plus vite, d'aller plus loin. Voilà, je pense que c'est ça.
C'est ça. Et on suggérait la question des quatre causes, bien sûr, cause finale, cause efficiente. Et est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont exactement dans la même situation que vous, c'est-à-dire qui ne sont pas professeurs de philosophie, mais qui sont dans le monde de l'entreprise ? Et qui viennent puiser, comme vous, une méthode déjà, une façon de penser et des principes.
Je crois que c'est même le cas de la majorité des personnes, c'est-à-dire que peu sont ceux qui ont le plaisir, la joie, l'honneur d'être professeur ou chercheur en philosophie ou autre discipline. Et la plupart, je pense, sont nourris par ces interventions, mais aussi par le côté pratique qu'elles revêtent, et notamment les ateliers qui sont mis en place où, précisément, on passe des principes à l'action. Et l'un des atouts pédagogiques de ces sessions saint Thomas était de mettre en place un atelier, par exemple, où on lit, on essaye de se mettre dans les chaussures de saint Thomas, on essaye de trouver le bien malgré les erreurs qui sont présentes dans tel ou tel document. Et de cette manière de réfléchir, de ces ateliers-là, ressort des choses incroyable, c'est-à-dire qu'on s'arme intellectuellement, non pas sous un aspect militant où on apprendrait par cœur telle ou telle fiche, disons-le, de propagande, de quelque bord que ce soit, on s'arme intellectuellement et sur le plan de la volonté, à se dire, en chaque chose, en chaque pensée, en chaque action professionnelle, personnelle, je vais rechercher ce qui est le bien, ce qui est le vrai, au-delà des étiquettes.
Donc c'est très pratique et très formateur au fond. Ce ne sont pas des dilettantes qui viennent là, ce ne sont pas des gens qui viennent meubler simplement leur esprit pendant quelques jours. Ils se disent qu'ils doivent sortir de là plus compétents dans leur propre domaine.
Je pense qu'il y a vraiment cette volonté-là et cette, osons le mot, cette ardeur, quoi. Après, ça n'empêche pas d'avoir des moments de détente. Scènes détente et qui sont prévues d'ailleurs dans l'organisation de ces sessions, en particulier un soir, une pièce de théâtre est donnée. Les échanges qui sont en marge des différents ateliers et des différentes conférences sont très agréables. Le cadre lui-même est assez agréable près de Châteauroux. Et puis, rappelons-le quand même l'essentiel, est donnée chaque jour la messe et dit le chapelet. Il y a un cadre quand même qui pousse au fait de vouloir devenir meilleur, au sens large, quoi. Je pense que c'est ce qui est assez stimulant.
Alors je redonne le programme, et surtout je donne ce que nous n'avions pas vu, mais là il faut que les auditeurs de Radio Courtoisie se penchent sur ce programme eux-mêmes et s'inscrivent d'ailleurs pour découvrir des visu, des auditu. Il y avait ce que j'ai dit, la guerre peut-elle être juste, le scandale du mal, comment est-ce que Dieu, par exemple, peut permettre le mal, ça fait partie des questions qui sont posées, l'évolution des espèces, aujourd'hui vous avez des antispécistes, vous avez des gens qui pensent qu'on ne doit pas distinguer du tout les espèces, je pense que ça sera évoqué certainement, ça sera très intéressant. Il y a aussi ces questions de la création, de l'évolution, du hasard et d'évolution, toutes ces questions-là sont abordées, et toujours à la lumière donc, des principes reçus de saint Thomas, mais on se dit d'accord, peut-être que saint Thomas donne des principes, enfin, il ne pouvait pas connaître les antispécistes, pas plus qu'il ne pouvait connaître les wokistes. comment pouvez-vous, est-ce que ce n'est pas anachronique, est-ce que vous ne faites pas répondre, est-ce que vous ne sollicitez pas, est-ce que vous ne forcez pas le trait?
Alors, pour l'évolution des espèces, la conférence portera principalement sur un état de la question scientifique, pour effectivement déjà repartir de ce qui est, et en particulier donc développement actuel, qui peuvent, sur certains points, invalider les connaissances qui étaient celles du XIIe ou XIIIe siècle, sur le plan scientifique. En revanche, sur le plan des principes, la distinction entre une catégorie, une espèce, etc., la question des ensembles, si on peut dire, la question logique, elle demeure. Et donc, à l'aune de ces développements scientifiques, sera posée la question de la possibilité. Si oui, comment? On aimerait bien le savoir, et c'est justement tout l'objet de la conférence, de l'évolution des espèces, en partant de la littérature, voilà, et académique, et je pense aussi culturelle. Darwin sera inévitable.
Je voulais dire, c'est ça, il est évident que saint Thomas, XIIIe siècle, n'a pas pu lire Darwin, XIXe siècle, pour des raisons simplement de chronologie, mais il y a dans ce penseur du XIIIe siècle, et dépassant justement la chronologie, il y a des principes intemporels qui permettent d'éclairer les thèses qui sont exprimées dans les siècles suivants, XIXe, XXe. Et alors vous faites ça, Freud de XXe siècle, c'est évident que saint Thomas n'a pas lu Freud, mais il peut donner des éclairages au niveau des principes.
Tout à fait. Et comme saint Thomas est un penseur de l'être, c'est là où tout se joue. C'est-à-dire que l'être, les différentes approches que l'on en aura, là pour la question de l'évolution, se dire il est quelque chose, comment peut-il passer, comment un être A peut-il passer à un être B? C'est toutes ces questions-là qui, d'un point de vue métaphysique, se posent. Et il n'y a pas besoin d'attendre des développements ou des déclinaisons, on va dire, scientifiques dans tel ou tel domaine, pour se poser cette question-là. Et c'est des questions qui s'inscrivent également dans la grande tradition philosophique, c'est hérité d'Aristote sur le plan naturel, se dire, voilà, qu'est-ce que le changement? Qu'est-ce que l'être? C'est absolument passionnant, c'est absolument fondamental aussi pour nous, hein, je veux dire, c'est des questions qui se posent, je veux dire, de manière très intime. Et puis, sur les deux autres conférences, hasard-évolution et création-évolution, il est tout à fait intéressant de se poser ces questions-là, à nouveau dans la démarche que j'évoquais tout à l'heure, celle où on nous interroge sur le sens de notre vie. Là, hasard-évolution, quid de la finalité, création-évolution, quid de la cause. Je veux dire, c'est quand même assez, assez central. Et là, pas uniquement pour les personnes qui cherchent qui se posent des questions et qui cherchent à avoir des réponses surtout. Je pense qu'il est aussi intéressant quand on est catholique, quand on est homme, bien sûr, honnête homme, sur le plan naturel également, mais de se poser ces questions. Elles sont fondamentales. Et on a le devoir d'avoir des réponses au monde qui essaierait de nous emmener ici ou là sur des réponses parfois erronées.
Alors je vais vous proposer une dernière question très pratique avant Guylaine de nous donner tous les renseignements qui vont vous permettre de s'inscrire et de prendre peut-être des contacts avec vous. Ça m'a l'air une session tellement rare que je me pose la question, est-ce que c'est cher?
Alors, je crois que le prix en vaut la chandelle. Et honnêtement, pour la qualité de l'événement, la qualité des intervenants, la qualité de l'organisation, il faut le rappeler, l'organisation, l'équipe d'organisation et de logistique, un grand mérite, et c'est toujours avec une grande rigueur que sont tenues ces sessions. Le prix est le suivant. Pour une chambre de 6 ou une chambre familiale, puisqu'il y a la possibilité de venir en famille, il est requis de payer 95 euros par personne, ou 85, tout compris, ou 85 euros avant le 15 juin. Pour une chambre individuelle, 115 euros par personne, ou 105 avant le 15 juin. Toujours cette réduction avant le 15 juin. Et puis pour un tarif étudiant en chambre de 6, 70 euros, et donc 60 euros avant le 15 juin. Voilà, les inscriptions se clôturent le 1er juillet. Et je rappelle donc cette réduction de 10 euros avant le 15 juin.
Donc c'est maintenant qu'il faut s'inscrire pour bénéficier donc de ces tarifs préférentiels. Alors Guylaine, donnez-nous, je crois qu'il y a un téléphone, il y a même une adresse électronique. À qui s'adresse-t-on ?
Pour s'inscrire donc à la session Saint-Thomas-d'Aquin, qui se tiendra du 11 au 13 juillet 2026 à l'école Saint-Michel, près de Châteauroux, on peut soit joindre au téléphone les organisateurs 06 50 75 34 11, soit écrire à session, donc écrire par mail, session.stthomas@yahoo.fr. Et il y a un site sur lequel on peut télécharger le bulletin d'inscription, et le site doit être Saint Thomas. Je suis navré, je ne trouve pas le... Mais je sais que Association Saint-Thomas a un site sur lequel on peut télécharger. Alors
vous avez saintthomasdaquin.free.fr, c'est peut-être là, parce que, au fond, vous êtes une association, et vous ne vous contentez pas de travailler 3 jours par an, vous travaillez toute l'année, et il faut peut-être dire cela aux auditeurs qui ne seraient pas libres à cette période... On peut avoir des cours par correspondance, vous fournissez des CD, il y a même des cours maintenant à distance grâce aux moyens électroniques. C'est toujours à la disposition des gens qui s'intéressent à Saint-Thomas.
C'est très juste, effectivement. En parallèle de ces sessions et en asynchrone, comme il se dit, il est possible de suivre une formation et d'organiser même un petit groupe. Invitons nos auditeurs effectivement à former des petits groupes de formation, ça se fait assez fréquemment, pour pouvoir continuer toute l'année à se nourrir des enseignements de Saint Thomas.
Et alors là, je redonne, parce que j'ai trouvé ça effectivement sur votre site, donc c'est, comme disait Guylaine, Saint Thomas, mais ST, et puis bien sûr attaché Thomas, T-H-O-M-A-S, mais cette fois-ci on rajoute d'Aquin, D, rattaché A-Q-U-I-N, .free.fr. Et là, on a tous les renseignements qui permettent de s'inscrire. Et là, c'est très libre parce qu'on peut s'inscrire à tout moment. On peut dès maintenant, si on veut, s'inscrire. Il ne faut pas attendre la rentrée universitaire. Si on veut commencer l'introduction à la philosophie, parce que je vois qu'il y a 6 modules, une introduction à la philosophie, logique, philosophie de la nature, psychologie, métaphysique, morale et politique. On peut commencer dès demain matin si on s'inscrit ce soir.
Complètement. C'est exactement ça.
Et là, je vois que vous avez des CD de 8 à 10 cours, donc tout ça est très, très bien conçu et assez raisonnable, je vois, puisqu'on peut avoir ces inscriptions pour en groupe 10 euros, de façon individuelle pour 25 euros. Mais enfin, le mieux est d'aller carrément sur le site pour s'inscrire. Donc, vous n'êtes pas thomiste que 3 jours par semaine, ça me rassure. Vous êtes thomiste toute l'année et pendant plusieurs années. Donc, je vous recevrai l'an prochain pour la nouvelle session. Mais déjà, longue vie, bien sûr, à votre association et tout le succès possible pour cette session Saint-Thomas d'Aquin qui aura lieu, alors je le répète, du 11 au 13 juillet à l'école Saint-Michel près de Châteauroux. accueille dès le vendredi 10 juillet à partir de 18h et on termine le lundi 13 à 16h. On a le temps de rentrer sur Paris.
C'est ça, tout à fait.
Un grand merci, à très bientôt.
Un grand merci, monsieur l'abbé.
Je vais avoir dans quelques instants mon prochain invité, mais pour l'heure, nous sommes dans les conditions du direct et c'est ça qui est très bien. On va pouvoir un petit peu jouer les prolongations avec Augustin Tonnard. Vous-même, vous avez découvert Saint Thomas comment ? Vous vous êtes réveillé un matin, vous vous êtes dit « Ah, il manque ça » ou bien vous avez fait des études, vous êtes tombé sur un professeur génial. C'est votre parcours qui m'intéresse.
Eh bien, c'est...
La genèse de votre parcours.
C'est... Disons que je suis un peu tombé dans la marmite de la philosophie sur le plan familial. Mais le plus marquant, effectivement, dans cette rencontre, c'est que ça a d'abord été... C'est d'abord passé par une rencontre des antiques. Donc on remonte, comme là, dans cette session avec le scandale du mal, on passe du mal chez les antiques, on passe de ces questions sur la finalité du monde, l'éternité de l'âme, toutes ces questions qui, en fait, se sont posées de tout temps, à tous les hommes, hein, peu importe les continents. Alors, tous ne se les sont pas posées, tous n'ont pas eu de réponse, et la révélation nous aide quand même beaucoup sur ce plan. Le fait est que je n'étais pas prédestiné à lire saint Thomas. Je n'ai pas été biberonné à saint Thomas, plutôt tout le contraire, disons. Et c'est par des connaissances, en particulier par des amis, un abbé, qui m'ont recommandé saint Thomas en me disant « Je n'ai jamais lu quelque chose d'aussi puissant. » Et j'aime beaucoup faire l'éloge de saint Christophe en disant « Toute la beauté de sa conversion tient à ce qu'il a voulu se mettre au service du plus grand maître. » Et il y a quelque chose d'un peu de cet ordre dans la philosophie, pour ceux qui écoutent un peu, c'est-à-dire je veux le plus grand maître. Je veux celui qui me donne les principes les plus élevés, les plus solides, les plus larges, les plus longs, les plus profonds, peu importe. Bon. Et avec saint Thomas, effectivement, on n'est pas déçu. On n'est pas déçu non seulement parce qu'il traite une diversité de sujets absolument folle. On se dit, mais comment a-t-il fait ? Mais en plus, il les traite tous avec une finesse incroyable. Et quand on se dit que... tous les exercices qu'on a pu faire en terminale de dissertation, on les doit à saint Thomas par cette méthode qu'on qualifie abusivement de thèse, antithèse, synthèse, et où on mécomprend complètement la synthèse thomiste. Bon, quand on se dit que toute cette formation-là est héritée de saint Thomas, ça devient vertigineux. Et on commence à ouvrir un peu un livre ou deux. Alors au début, ça peut être un peu difficile. Il y a des questions quand même qui sont vraiment ardues. Le fait est que, dès lors qu'on rentre un peu dans cette logique très tranquille de présentation de ce qui s'est dit avant lui, pas de révolution, hein. On regarde d'abord ce qui s'est dit, et pas sectaire, hein. On regarde tout ce qui s'est dit, on le traite, on le fait discuter, tel argument contre tel autre, telle source contre telle autre, et puis on arrive à une synthèse. Voilà, moi je reste encore émerveillé de la lecture de saint Thomas, et je la recommande à tout le monde. C'est non seulement vivifiant, mais ça devrait être beaucoup plus enseigné.
Donc, je souhaite aux auditeurs de Radio Courtoisie qui viendront à cette session saint Thomas du 11 au 13 juillet à l'école Saint-Michel, et bien de partager le même émerveillement que vous... qui est encore vôtre aujourd'hui. Vous l'avez découvert il y a déjà un certain nombre d'années, mais vous êtes toujours émerveillé. On a l'impression que plus vous avancez, plus vous vous émerveillez. Vous n'êtes pas blasé.
Au contraire, effectivement, c'est vrai que plus on avance et plus on se dit c'est fantastique. Je l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est une des pensées de Saint-Augustin dans la Cité de Dieu, de dire nous sommes tombés sur un trésor. C'est un véritable trésor. Et à deux titres, au titre naturel et au titre surnaturel.
Parfait, un grand merci donc. Et j'ai la joie de recevoir maintenant l'abbé François Delmotte. Vous m'entendez, monsieur l'abbé ?
Oui, je vous entends.
Très bien.
Bonsoir, monsieur l'abbé.
Bonsoir. Alors, à la fois, nous changeons complètement de sujet, puisque vous venez de consacrer un ouvrage à Sainte-Marie-Madeleine, femme de l'Évangile, qui est parue aux éditions Clovis. Mais on est un petit peu quand même dans votre domaine, parce que, disons-le aux auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes vous-même professeur de philosophie à l'école Saint-Joseph-des-Carmes, dans le sud de la France, c'est bien ça?
Exactement. Voilà, ça fait 13 ans que j'enseigne la philosophie en classe de terminale. Et effectivement, c'est toujours une joie de faire découvrir aux élèves saint Thomas d'Aquin, et il y en a beaucoup qui l'apprécient, ainsi que les autres grands noms de la philosophie, dont par exemple Aristote aussi, que je fais étudier à mes élèves.
Voilà, très très bien. Alors, pas besoin d'avoir lu Aristote et saint Thomas pour apprécier votre ouvrage, c'est à la portée de tout le monde, Sainte-Marie-Madeleine, femme de l'Évangile. Dans quelle perspective vous avez rédigé cette belle vie de Sainte-Marie-Madeleine, son portrait spirituel? Qu'est-ce qui vous a mu? Qu'est-ce qui vous a ému?
Alors, je pense que la bonne expression, c'est effectivement un portrait spirituel. C'est-à-dire que je n'ai pas voulu écrire une nouvelle biographie savante, historique, dans tous les détails de la vie de Sainte-Marie-Madeleine. Je m'intéresse plutôt à l'itinéraire de son âme. Et cela, ça m'est venu en lisant l'Évangile, tout simplement, où quand on fait attention, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de passages de l'Évangile qui parlent de Sainte-Marie-Madeleine, et tous ces passages de l'Évangile assez nombreux qui parlent de Sainte-Marie-Madeleine sont tous repris par l'Église dans sa liturgie. Alors je me suis dit qu'il y avait là quelque chose à creuser, parce que si elle a une place aussi importante dans l'Évangile et dans la liturgie, c'est qu'il y a un enseignement à tirer de sa vie, de sa personne, de l'itinéraire de sa conversion. Et c'est cela qui m'a poussé à méditer davantage ces passages et en écrire un ouvrage, d'abord à destination de... Eh bien, des fidèles à qui j'ai pu prêcher le dimanche, puis ensuite à destination de tout le monde, de tout le public.
Alors, comme vous dites, c'est une convertie, parce que Marie-Madeleine, c'est pas une petite sainte au départ, quand même.
Alors, ce n'est pas une petite sainte au départ, ça c'est sûr. Mais justement, c'est ça qui est très touchant,
oui.
C'est qu'elle démarre mal dans la vie, on va dire, au point de vue religieux, mais elle finit très bien. Et en fait... il me semble que c'est là l'exemple type de notre vie à nous tous. Voilà, pas forcément, on n'a peut-être pas forcément une vie, on pourrait dire, dissolue comme Sainte-Marie-Madeleine, mais n'empêche que tous nous passons du péché à la grâce, de la mort du péché à la vie de la grâce, ou de l'ombre du péché à la lumière de la grâce. Et en fait, Marie-Madeleine est un très bel exemple de cela. Et encore une fois, comme l'Évangile nous donne de nombreux détails sur sa vie, sur son union avec notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, ça nous aide aussi à comprendre comment nous-mêmes, dans notre vie, nous pouvons profiter de notre Seigneur Jésus-Christ, de la grâce qu'il nous apporte dans son Évangile.
C'est ça, quelle que soit notre misère au départ, mais transformée par la miséricorde, par la grâce, on peut arriver à des sommets, c'est cela.
Exactement. Et Sainte-Marie-Madeleine est arrivé à un sommet, puisqu'il est arrivé en Provence, à la Sainte-Baume.
Exact.
Qui est un très beau sanctuaire, que je ne peux qu'inviter à le visiter. Et c'est un peu sur une grotte, là, sur une montagne, très très beau, et en même temps très représentatif de la vie, et de l'âme surtout, de Sainte-Marie-Madeleine.
Et oui, elle est là, ermite, et il faut dire qu'en bas, alors, dans la vallée, il y a la basilique Saint-Maximin, et là, le reliquaire qui contient son chef.
Oui, voilà. J'ai eu l'occasion de m'y rendre une fois ou l'autre, et c'est saisissant de se retrouver en face de cette tête qui vous regarde, et qui, en même temps, vous vous dites que cette tête, le chef de Sainte-Marie-Madeleine a vu le Christ, elle nous regarde, et en fait, elle a vu aussi notre Seigneur Jésus-Christ, elle l'a contemplé de ses yeux. C'est vraiment quelque chose de saisissant.
Ouais. Et alors, je voudrais... vous demandez de nous expliquer un petit peu le chapitre que vous lui consacrez sous le titre « Apôtre des apôtres ». C'est c'est elle qui est, elle est la seule à avoir ce titre-là. Donc elle, la pécheresse, convertie. Quand on dit que l'Église est misogyne, il faut dire que la liturgie dit de Sainte Marie-Madeleine apostola apostolorum. Donc c'est une femme apôtre des apôtres. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer cela? C'est pas évident.
Mais c'est vrai que, comme vous le remarquez, c'est un titre qui lui appartient en propre. Il y a qu'elle qui a ce titre-là. Et il lui vient du dimanche de Pâques de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ lui apparaît parmi les premières apparitions. Notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'Évangile, apparaît à assez peu de personnes au début. Et puis, du coup, il lui apparaît à elle et il lui charge... Il la charge, pardon, d'une mission pour ses apôtres, pour Saint-Pierre et les autres apôtres, d'aller, elle doit leur annoncer sa résurrection. Alors elle le fait en fait, on pourrait dire, d'une double manière, c'est le message vocal, oral, voilà, le Christ est ressuscité, je l'ai vu, j'en suis témoin. Et puis en fait, c'est aussi un message de sa conversion et sa nouvelle vie dans la grâce, dans l'amitié avec notre Seigneur Jésus-Christ, montre aussi qu'elle a profité des fruits de la résurrection, puisque notre Seigneur Jésus-Christ nous rachète de nos fautes par sa passion, sa mort sur la croix et sa résurrection, et elle le manifeste dans sa vie. Alors c'est délicat, c'est un rôle tout en délicatesse, le rôle de Sainte Marie-Madeleine. Elle n'a pas vocation à prêcher sur les places publiques, mais elle a ce rôle le plus discret d'aller... réveiller la foi endormie des apôtres, d'aller réveiller leurs prières, de les faire prier pour que eux aussi se rendent au tombeau, voient notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité et reçoivent dans la foi, posent cet acte de foi dans la résurrection du Christ. Un rôle en délicatesse, c'est très beau à voir, ça fait partie de la liturgie que l'on a au matin de Pâques. Cette ardeur de Sainte Marie-Madeleine à chercher le Christ et à le faire, à le transmettre aux autres par sa parole, par sa vie de charité. Voilà. Encore une fois, pas de manière extraordinaire là, sur les places publiques. Quelques jours après, à la Pentecôte, Saint-Pierre s'adressera à 3000 personnes à la fois. Ben, ça, c'est pas le rôle de Sainte Marie-Madeleine, mais elle a ce rôle plus en retrait, plus fondamental aussi, de prévenir les apôtres, de leur dire « il est ressuscité, puis il vous attend ici, là, il attend l'acte de votre foi, en fait. »
Et vous le dites, elle ne rencontre pas nécessairement le succès, dans cette parce que les apôtres étaient quand même très secoués par la passion, ils étaient très secoués par la mort de Jésus-Christ, et ils doutaient terriblement. On a l'exemple des pèlerins d'Emmaüs qui s'en vont et qui non seulement doutent, mais se demandent s'il faut encore croire, quoi.
Alors exactement, c'est aussi un autre point intéressant de la vie de Sainte Marie-Madeleine et qui est très encourageant pour nous. C'est pas une image d'Épinal. Sa vie n'est pas toute rose ou toute belle. Elle a rencontré des difficultés. Elle a rencontré l'insuccès. Oui. Je pense que les apôtres au début l'ont, c'est un peu dit comme ça ou sous-entendu dans l'Évangile,
oui,
un peu pris comme une folle qui raconte qu'est-ce qu'elle nous raconte là. Ils ne l'ont pas vraiment cru. Mais elle, sa mission, c'est d'annoncer. Elle n'a pas le pouvoir de faire croire les autres. C'est un peu comme saint Paul dans ses épîtres qui dit « Moi, ma mission, c'est d'évangéliser. Voilà, je vous donne la bonne parole de l'Évangile. Après, c'est aux âmes à croire cette parole de l'Évangile. » Et c'est intéressant, Sainte Marie-Madeleine a dû avoir une âme de très grand caractère, une très grande force d'âme pour supporter ses insuccès. Parce qu'en fait, à un autre moment, là, on voit dans l'Évangile aussi, enfin, on devine la lecture de l'Évangile, elle est cette femme là, d'une vie dissolue, qui était connue quand même, hein, connue du grand public. D'un coup, elle se convertit, elle se met à suivre Jésus-Christ, elle est au nombre de ses disciples. Je pense que ça a dû faire jaser, ça a dû gêner pas mal de personnes dans l'entourage même du Christ, de se dire, c'est un peu gênant qu'elle soit là, quoi. Et ça, elle l'a supporté sans rien dire, en l'offrant à Dieu, parce que, bah, comme le disait l'auditeur précédent, elle a trouvé ce plus grand maître qui remplit complètement son âme, sa vie, et c'est ça qui va, voilà, c'est cette charité qu'elle a pour le Christ qui va lui faire supporter toutes ces difficultés ou les insuccès qu'elle peut rencontrer.
Je crois que, comme vous le dites, effectivement, dans l'entourage de Jésus, on s'est trouvé que c'était une présence gênante. Elle n'était pas fréquentable, en clair. C'était ça. Et surtout, quand elle se met à parfumer, Jésus... Et il y a même, alors, Judas qui dit, on aurait pu économiser et donner ça aux pauvres, parce qu'il mettait tout ça dans sa poche. Elle a dû essuyer pas mal de reproches.
Oui, elle a essuyé effectivement deux fois les pieds de Jésus de ses larmes, oui. Mais elle a essuyé aussi pas mal de reproches.
Elle-même.
C'est un geste incompréhensible, on le lit deux fois dans l'Évangile.
Oui.
On le lit nulle part, me semble-t-il, dans toute la Sainte Écriture. C'est un geste très surprenant qui n'est plus du tout dans nos habitudes, donc on a vraiment du mal à le comprendre, ce geste. Mais il montre justement toute l'ardeur de Sainte Marie-Madeleine et puis l'oubli d'elle-même. Elle arrive à marcher sur ce respect humain pour ne pas se laisser influencer, ne pas être libre en fait de ce respect humain. Pour poser cet acte qui est un peu sa mission. Il y a une très belle expression, j'ai trouvé en lisant là une très belle expression de Saint François de Sales, qui dit que toujours et partout, quand on rencontre Sainte Marie-Madeleine dans l'Évangile, elle est toujours et partout la parfumeuse du Christ. Et alors en fait c'est très beau comme expression, et surtout c'est très profond parce que Christ, ça, c'est un mot qui vient du grec et qui veut dire celui qui est oint, celui qui a reçu l'onction, l'onction de la divinité. Et en fait, Marie-Madeleine a la mission finalement de par les onctions, les deux onctions qu'elle fait sur les pieds et la tête de notre Seigneur Jésus-Christ, elle a comme mission, on va dire, de le montrer extérieurement. Voilà, c'est lui véritablement le Christ, c'est-à-dire celui qui est oint par Dieu le Père pour notre salut. C'est un geste très beau.
Et c'était effectivement un apostolat très particulier, d'autant plus que vous le remarquez dans votre ouvrage, dont je redis aux auditeurs, j'ai la joie de recevoir l'abbé François Delmotte pour son livre « Sainte Marie-Madeleine, femme de l'Évangile » qui est paru aux éditions Clovis. On peut se procurer l'ouvrage pour la modique somme de 14 euros, mais c'est un bel ouvrage qui fait 126 pages, très complet, très bien écrit, je tiens à vous le dire d'ailleurs, ça se lit avec beaucoup, beaucoup de bonheur. C'est très bien écrit. Et vous le remarquez dans cet ouvrage, oui, c'est une femme de l'Évangile qui ne parle pas beaucoup. Elle ne parle pas beaucoup dans l'Évangile. Elle, au fond, elle est éloquente parce qu'elle est muette.
Un peu. Elle ne parle pas beaucoup parce que l'Évangile ne... contrairement à notre monde d'aujourd'hui, l'Évangile se fait rare sur les paroles. On n'est pas dans un monde qui... Dans l'Évangile, c'est pas le monde qui parle tout le temps, qui commente tout à coup de tweets sur les réseaux sociaux et compagnie. C'est vraiment la parole se fait plus rare parce qu'elle est plus précieuse. C'est le cas de Sainte Marie-Madeleine. Et puis surtout, elle est un exemple pour nous par sa vie.
Oui.
Sa vie, toute sa vie, ses faits, ses gestes. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu intituler ça le livre Sainte Marie-Madeleine, femme de l'Évangile, c'est-à-dire celle qui a vraiment reçu l'Évangile par la foi et qui l'a pratiqué dans sa vie par toutes les vertus chrétiennes. C'est celle qui met en pratique l'Évangile et c'est aussi la raison pour laquelle elle est un exemple pour nous, parce que nous aussi nous sommes appelés chacun à notre place, à notre manière, on va dire, de recevoir cet Évangile de Jésus-Christ par la foi et de le mettre en pratique par les vertus chrétiennes à l'exemple des différents saints de l'Évangile, mais de Sainte Marie-Madeleine en particulier.
Mais c'est une prédication qui, je ne dirais pas se passe des mots, mais peut-être dépasse les mots aussi, parce que c'est tellement intime, tellement vécu. Il y a quelque chose que vous rapportez, évidemment, qui est unique, c'est cet échange très bref et très intense, au moment, justement, de l'apparition de Jésus à Marie-Madeleine. Elle pense que c'est jardinier, elle se méprend, elle le reconnaît, à la voix. Oui. Et elle l'appelle d'un diminutif, c'est pas Rabbi, c'est Rabboni, preuve effectivement d'une grande, grande intimité spirituelle. Là, on est au-delà des mots, les mots balbutient, on sent bien qu'il y a une réalité beaucoup plus forte et beaucoup plus intense derrière, au-delà des mots.
Exactement, c'est très beau, hein, la vie de Sainte-Marie-Madeleine, et encore une fois, je pense que c'est pour ça qu'elle a un rôle vraiment capital. Jésus-Christ, d'ailleurs, lorsqu'elle fait la deuxième onction, dit à son sujet, en corrigeant Judas qui se méprenait, il dit « Partout où sera prêché l'évangile, on parlera d'elle. » Donc c'est vraiment quelque chose il attire l'attention sur elle. Et elle est arrivée, elle s'est convertie, donc de sa vie de péché, ou en fait sa vie sans Dieu, finalement, c'est comme ça qu'on pourrait la qualifier. Elle s'est convertie par la foi, l'espérance, la charité. Elle a uni son âme au Christ, mais elle est allée très loin, très haut, dans cette union au Christ. Et vraiment, c'est très très beau, parce que ça nous encourage, nous, en fait, même si on a notre petite vie habituelle chrétienne, même parfois, mais on peut toujours aller plus haut. Le bon Dieu peut nous attirer plus haut, et il n'est pas besoin pour cela de grands discours. Sainte Marie-Madeleine n'en fait pas. Il est besoin de poser des actes, et ces actes peuvent nous ouvrir l'amitié, et même une avec le Christ, mais même une intimité avec notre Seigneur Jésus-Christ qui est très très forte. Voyez, il y a des passages dans l'Évangile, vous en citiez un, et ils se reconnaissent par le son de la voix, par un seul mot. Elle dit « Rabboni », Jésus lui répond « Marie », c'est la seule fois où il l'appelle par son prénom. Et puis même par l'échange de regard aussi, où elle reconnaît notre Seigneur Jésus-Christ. Cette intimité de l'âme, de l'âme avec Jésus-Christ à laquelle elle est arrivée, nous sommes nous aussi invités, en fait, encouragés à la recevoir aussi dans notre âme, en fait, à la chercher. Nous aussi, on doit chercher cette intimité avec notre Seigneur Jésus-Christ, et elle nous sera donnée par la grâce. Hein. Notre Seigneur le donne à Sainte Marie-Madeleine, il le donne à Saint-Pierre aussi, qui lui aussi a dû corriger certaines choses. Qui l'a montré d'une autre manière, plus exubérante, on va dire. Voilà, nous sommes tous invités à cette intimité-là, et c'est ça que j'ai trouvé vraiment, encore une fois, très beau, très encourageant dans le portrait de Sainte Marie-Madeleine. C'est vraiment quelqu'un, en fait, pour nous, voilà, qui nous ressemble et qui est vraiment fait pour nous encourager, nous tous, dans notre vie chrétienne.
C'est vrai.
Ou dans une vie, justement, où on se pose des questions sur Dieu et où on aimerait bien connaître le bon Dieu.
Et dans un monde où, un peu comme Marie-Madeleine, on est saturé d'impureté, de souillé par quantité de vilenie, on se dit, est-ce qu'il y a encore une lueur, est-ce qu'on peut... Ben oui, parce qu'elle-même, elle était malheureusement tombée très profond, et elle s'est élevée très haut, en fait. Donc on peut se dire que la grâce peut prendre dans toutes les situations, dans toutes les détresses, les âmes, et elles ont accès à cette lumière, quel que soit le départ dans la vie, qui, je pense effectivement aujourd'hui, quand on voit, ne serait-ce que dans les transports publics, beaucoup d'âmes cabossées, et tout de même, qui ne fument pas que des cigarettes, et qui ne boivent pas que des jus de fruits, et qui ne parlent pas que de Bossuet, on se dit, oui, il y a peut-être un handicap au départ terrible, mais non, parce que, au fond, Marie-Madeleine est partie de très bas, et elle est montée très haut, par la grâce de Dieu, c'est évident, la grâce.
Exactement, c'est ça. Et c'est en cela qu'elle est encourageante, qu'elle est un très bel exemple. C'est un livre, j'ai voulu l'écrire comme ça, et d'après les premiers retours que j'ai pu avoir, il me semble que ça répond à ce but. C'est un livre que j'ai vraiment écrit pour tout le monde. Tout le monde, c'est-à-dire la personne catholique, pratiquante, qui connaît déjà un peu Sainte Marie-Madeleine, et qui, voilà, ça va lui permettre de l'encourager sur cette voie du salut, mais aussi pour des personnes qui ne sont pas baptisées, qui ne connaissent pas le bon Dieu. Sainte Marie-Hélène, elle est tellement humaine qu'elle parle à tout le monde, Et en même temps, elle est tellement divinisée, on va dire, par la grâce, qu'elle peut nous conduire jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est en cela, d'ailleurs, qu'elle, à nouveau, elle se fait apôtre par sa vie, par son exemple. Mais elle parle à tout le monde, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Elle ne parle pas aux personnes, en fait, qui ne vont pas s'intéresser à elle. Là, j'ai quelques fidèles qui ont lu l'ouvrage et qui m'ont dit « Ah ben, je la connais parce que c'est dans l'Évangile, mais ça me parlait pas plus que ça. Maintenant que j'ai lu votre livre, je me suis dit « Ah, dis donc, c'est formidable, c'est incroyable d'avoir des personnages comme ça et on passe à côté sans y prêter attention. » Alors ça, c'est vrai pour le fidèle catholique, mais c'est vrai encore aussi pour une personne du monde aujourd'hui qui cherche un peu à respirer, à trouver quelque chose de qui parle à son âme, qui console son âme de différentes difficultés que l'on peut avoir connaître aujourd'hui, des épreuves que l'on peut connaître dans notre vie, ou une âme qui cherche un peu un second souffle pour sortir un peu de l'ornière de ses fautes, etc. Une âme qui cherche la lumière, la vie de Sainte Marie-Madeleine est là pour ça, est là pour nous.
Vous me faites penser, monsieur Lambert, ce mot du père Vessières, c'était le gardien de la Sainte Baume, ce dominicain, saint dominicain d'ailleurs, quand il avait des pèlerins un petit peu sceptiques qui doutaient, mais vous croyez vraiment que Marie-Madeleine est venue de Terre Sainte, ici en Provence? Alors il les prenait à rebours, du bon, je ne sais pas si elle est venue. Mais il y a une chose dont je suis certain, c'est qu'elle est là.
C'est exactement ça. Ouais.
Et on voit à la lumière de votre ouvrage qu'elle est là, c'est-à-dire qu'elle, par son exemple, elle nous parle encore. D'ailleurs, exactement. Plus par son exemple que par ses paroles, puisqu'elle parlait peu.
Exactement.
Alors je retire. Oui, allez-y, vous savez, je vous en prie.
Oui, non, c'est aussi là. Voilà, je l'ai déjà mis. C'est la raison pour la fin. Ce qui m'a vraiment surpris un peu au point de départ, c'est que voilà, dans le missel, dans les messes de tous les jours de l'année, en fait, on a tous les passages de l'Évangile qui parlent d'elle, qui sont repris dans les dimanches, dans le carême, le jour de sa fête, le 22 juillet. Ouais, elle est là, et l'Église a voulu qu'elle soit là, parce qu'elle a quelque chose à nous dire par l'exemple de sa vie.
Eh bien, alors, l'abbé François Delmotte, que j'ai eu la joie de recevoir, est l'auteur de Sainte Marie-Madeleine, Femme de l'Évangile, par édition Clovis, qu'on peut se procurer dans toutes les bonnes librairies et par correspondance en s'adressant à Clovis. Un grand merci, monsieur l'abbé, pour cette belle... au fond, vous êtes un peu l'interprète de Sainte Marie-Madeleine et c'est merveilleux. À bientôt.
Merci bien, monsieur.
Guylaine, nous nous retrouvons dans...
4 jours.
Merci beaucoup.
Vous venez d'entendre le Libre Journal des Traditions créé par Claude Giraud et dirigé aujourd'hui par l'abbé Alain Laurence, assisté de Guylaine, diffusé en direct sur Radio Courtoisie jeudi 7 mai 2026 de 19h30 à 21h et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal, commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.